France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, en partenariat avec le journal L'Équipe, la Coupe du Monde de football 1934 en Italie. L'Italie, troisième pays le plus titré au monde après le Brésil et l'Allemagne. La troisième nation historique du foot. Ces clubs, eux, ont remporté 29 Coupes d'Europe. Mais l'Italie, ça n'est pas que le passé. Bergame vient de remporter un titre européen. Le championnat national italien est classé premier du continent par l'UEFA cette année. Et aujourd'hui, au moment où nous parlons, la Squadra Azzurra est championne d'Europe en titre. Respect. Mais l'histoire de l'équipe nationale italienne n'a pas toujours été aussi souriante. En 1934, le régime de Mussolini, organisateur cette année-là, renomme la Coupe du Monde Campionato Mondiale di Calcio, du nom de ce jeu qui remonte à la Renaissance et qui rappelle vaguement le football. Football, un mot qui a donc disparu pour cette édition 1934. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour Benito, ça veut dire beaucoup. Car le Dulce n'a jamais été un grand fan de ballon rond, contrairement à son peuple, tombé accro au début du XXe siècle. Mais que peut faire un dictateur contre l'engouement que provoque le foot ? Pas grand-chose, sinon l'utiliser à son avantage. Ainsi, la Fédération italienne de calcio, appuyée par le régime fasciste, va débaucher de talentueux joueurs étrangers, acheter des matchs et des arbitres. Il y a 90 ans, le football était déjà moderne. Nos invités aujourd'hui, Geoffroy Garrettier, journaliste à Canal+, spécialiste de l'histoire du football, et Tony Chaperon, ex-arbitre français international, spécialiste également de l'histoire du football. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Adrien Mora, rédaction en chef, Franck Cognard, chargé de programme, Rebecca de Nantes, réalisation, Frédéric Milano.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Jeunes gens,
camicie nere di tutta Italia,
chemise noire de toute l'Italie,
sono sicuro,
je suis sûr que l'épreuve d'aujourd'hui démontrera
la vostra disciplina,
votre discipline et votre force.
Così,
ainsi, vous vous préparerez
ad essere i
à être les soldats de l'idéal fasciste et les défenseurs de la patrie.
Mai 1934, stade des Cyprès à Rome. Benito Mussolini prononce ces mots devant ses jeunes chemises noires, ses partisans fascistes. De cette foule compacte et organisée émerge un tonnerre d'applaudissements et des saluts fascistes synchronisés. Pour Mussolini, qui s'est arrogé le titre de premier sportif d'Italie, le sport est le moyen de promouvoir l'émergence de l'homme nouveau, obsession fantasmatique de bien des dictatures de l'époque. Mussolini utilise aussi le sport comme propagande pour le culte de sa personnalité. Le Duce fait de l'escrime, le Duce fait de l'équitation, le Duce fait du ski, mais à l'arrêt car il est très mauvais. À vrai dire, ce qu'il préfère, ce sont les sports automobiles. Et on le voit piloter des Alfa Romeo. Et il met toute la jeunesse du pays au sport. Un corps sain dans un esprit sain, on connaît la musique.
L'Institut biotypologique créé près de l'université de Gênes surveille le développement physique et psychique des filles d'Italie. Plus de 60 000 adolescents sont contrôlés chaque année.
Dans les Alpes Dolomites, les Balila mousquetaires font des ascensions qui sont de véritables manœuvres.
Les cours viennent de reprendre à l'école supérieure féminine modèle d'Ovietto. Dans cette académie, une grande place est réservée au sport.
Et le foot dans tout ça? Bon, le Duce n'apprécie guère ce sport anglais importé à la fin du 19e siècle sur le territoire italien, à Gênes, et qui s'est diffusé avec la création de deux clubs historiques, le Genoa et la Juventus de Turin, la Juve, qui peut se targuer de véhiculer une vraie histoire, séculaire. Or, si Mussolini n'est pas fan de foot, son peuple, lui, l'adore. En 30 ans, des clubs se sont formés dans tout le pays, et les foules se pressent pour assister à ce spectacle exaltant. Chaque dimanche, on estime qu'il y a 150 000 tifosi qui se rendent au stade pour supporter leur équipe de cœur. Une passion dévorante qui va jusqu'à des accès et des excès de violence, comme en témoigne Paul Dicci, historien du foot, qui témoigne dans le documentaire intitulé « La Coupe Duce », réalisé par Anna Francesca Leccia en 2021 et produit par Marete Radio.
Si on lit les comptes rendus, Les supporters viennent avec le manganello, donc le gourdin, ils viennent parfois avec des revolvers. Donc il y a beaucoup de parties qui se terminent mal. Et tout cela atteint son sommet en juillet 1925, lorsque, à l'issue d'une finale de championnat qui est disputée à Turin, eh bien, les supporters de Bologne tirent sur des supporters du Genoa dans la gare de Porta Nuova à Turin, faisant un blessé relativement grave.
Le ministre de l'Intérieur prend alors des mesures fortes pour stopper les violences entre tifosi, parce que Mussolini voit d'un très mauvais œil le régionalisme italien que favorisent les nouvelles rivalités footballistiques. Lui qui veut unir son pays, qui n'a que 63 ans d'âge à l'époque, veut empêcher par tous les moyens que le ballon rond ne le divise. Alors, en 1928, les fascistes tentent d'imposer aux foules un nouveau sport, la volata, un mélange de foot, de handball, de basket, pourquoi pas non plus du baby-foot. Évidemment, la greffe ne prend pas. Le Duce doit donc s'y résoudre, il devra composer avec le foot. Avec le calcio, pardon. Mais comme il l'a fait avec tous les sports, il va reprendre en main la fédération, la fasciser et l'italianiser. En 1928, on désigne le pays organisateur de la première Coupe du Monde, qui se déroulera en 1930. Et elle passe sous le nez des Italiens. C'est l'Uruguay qui décroche le pompon. Tant pis, ce sera pour la suivante, en 1934, l'occasion d'amplifier le développement du foot dans le pays. Alors, le régime initie un grand programme de construction d'enceintes sportives, à l'image du Forum Mussolini à Rome, et ce dès la fin des années 20.
Visite des nouveaux édifices du Forum Mussolini. Voici le stade des Cyprès, le grand stade olympique, qui aura un terrain de foot de taille maximum et pour accueillir 50 000 spectateurs. Les thermes comprennent une piscine découverte et un groupe de piscines intérieures avec 4 grands bassins.
Une fois la Coupe du Monde obtenue, les fascistes veulent s'imposer sur la scène internationale et remporter le trophée coûte que coûte. Et ils vont s'en donner les moyens. Première étape, le recrutement ou le débauchage de joueurs étrangers d'origine italienne, les Oriundi. On va chercher surtout des Argentins, issus d'un pays forgé par l'immigration italienne. En l'occurrence, les attaquants Raimondo Orsi et Enrique Gaeta. Et surtout, le milieu Luis Monti, vice-champion du monde 1930, surnommé le combleur d'espace vide. Alors remontons un peu le temps, de 4 ans. Nous sommes en juillet 1930 en Uruguay. C'est donc ici que se déroule la première Coupe du Monde de l'histoire. Pour décrocher l'organisation de la compétition, l'Uruguay avait deux arguments massus. Double vainqueur des tournois olympiques en 1924 et 1928. Et puis 1930, ce sont les 100 ans de l'indépendance du pays. Beau cadeau d'anniversaire offert par Jules Rimet, le président de la FIFA et inventeur de la Coupe du Monde, qui portera longtemps son nom, oui, la Coupe du Monde est française. Notons que cette première édition a des airs de Copa América tout de même, la Coupe de l'Amérique du Sud. Pas de pays asiatiques en effet, pas de pays océaniens ou africains. Non, seuls 4 pays européens ont fait les 2 semaines de traversée de l'Atlantique en bateau. La France, la Belgique, la Yougoslavie et la Roumanie qui s'entraînent sur le pont du paquebot. Mais alors où sont l'Italie, l'Espagne et l'Angleterre ? Vexée de ne pas avoir obtenu l'organisation de la Coupe du Monde, l'Italie boycotte la compétition uruguayenne. En Espagne, les clubs n'ont pas voulu libérer les joueurs. Et l'Angleterre, pays inventeur du foot moderne, est en conflit avec la FIFA et refuse de participer aux compétitions internationales. On ne les verra en Coupe du Monde qu'à partir de 1950. Et ils n'en gagneront qu'une chez eux en 66. Heureusement qu'ils jouaient à domicile. Côté résultat, en Uruguay, bon, sans grande surprise, ce sont les deux favoris et voisins qui écrasent la compétition. L'Uruguay donc, pays organisateur, c'est trop souvent le cas, et l'Argentine qui se retrouve en finale. Le 30 juillet 1930, dans les colonnes de Paris Soir, Maurice Pfefferkorn écrit.
Qui l'emportera de l'Uruguay ou de l'Argentine ? Il est bien difficile de le dire. Ces deux rivaux éternels sont actuellement en pleine forme. Et la similitude des scores obtenus par eux en demi-finale contribue à augmenter notre incertitude. Peut-être l'Uruguay, spécialement préparé et chauffé pour cette rencontre, qui jouera devant son public, probablement 100 000 spectateurs, aidé par l'enthousiasme formidable de ses supporters, remportera-t-il la victoire finale ? L'Argentine possède une équipe homogène, pratiquant un jeu plus soudé, plus cohérent que l'Uruguay. Mais celui-ci compte dans ses rangs des artistes plus brillants, plus susceptibles de réaliser l'exploit personnel et décisif, capables de décider de la victoire. La qualité des individus l'emportera-t-elle sur celle de l'équipe ?
Mais ce que le journaliste français ne sait pas, ni personne d'ailleurs, c'est qu'à la veille du match, Luis Monti, joueur argentin, a reçu une lettre de menace à son hôtel. « Si l'Argentine gagne, vous et votre famille mourrez. » Ambiance. Mercredi 30 juillet 1930, Montevideo, midi, stade du Centenario. Le coup d'envoi de cette première finale de Coupe du Monde est prévu à 15h30, mais le stade est déjà plein. Combien sont-ils ? Officiellement 68 346. Mais en réalité, beaucoup plus. 90 000, il y aurait près de 20 000 Argentins. Alors par mesure de sécurité, on a confisqué les armes à feu à l'entrée du stade. Re-ambiance. Uruguay-Argentine, ce match est un classique de ce début de siècle, le derby céleste. En 30 ans, les deux sélections nationales se sont affrontées plus de 100 fois. Il faut dire qu'il n'y a que le Rio de la Plata à traverser pour aller de Buenos Aires à Montevideo. Le coup d'envoi est retardé, les deux équipes se querellent sur un détail inimaginable aujourd'hui, le choix du ballon. Chaque sélection préfère le sien. Alors, l'arbitre tranche pour un ballon par mi-temps. Les Argentins débutent avec le leur, et plutôt bien. L'Albiceleste mène 2-1 à la mi-temps. Mais les Uruguayens, poussés par leur public, renversent la situation et s'imposent 4-2 pour soulever la première Coupe du Monde de l'histoire. Quand on vous dit que jouer chez soi est un privilège, et finalement, peut-être, un problème d'équité. Parmi les Argentins, Luis Monti, que nous avons déjà évoqué, celui qui a reçu des menaces de mort, rate sa finale, ce qui peut se comprendre. L'un de ses coéquipiers, Francisco Varela, raconte. Monti était effrayé, il était paralysé pendant le match, ce qui fait qu'on a clairement joué à neuf. C'est pour ça qu'on a été battu si nettement. Monti perd le match, mais sauve sa vie. Et personne ne saura jamais si les menaces étaient sérieuses. Ce qui est plus connu, c'est la suite de l'histoire pour le joueur argentin qui s'est approché après la finale par deux envoyés spéciaux italiens chargés de venir le débaucher de l'Albiceleste pour qu'il vienne jouer avec la Squadra Azzurra. On lui promet une voiture, une maison, un salaire confortable et une place à la Juventus de Turin, la Juve, le grand club italien. Une offre que Monti ne peut pas refuser. Le joueur argentin, qui comme beaucoup de ses compatriotes a des ancêtres italiens, change donc de maillot, direction la botte, où le sport et le fascisme font bon ménage. En tout cas, bonne pioche, Luis Monti sera l'une des pièces maîtresses de la Squadra Azzurra qui prépare la Coupe du Monde 1934 en Italie, à la maison, à cette époque où la Fédération Nationale, le régime font tout pour gagner cette Coupe. D'abord, Vittorio Pozzo est confirmé au poste de sélectionneur. Ancien chasseur alpin, pendant la Première Guerre mondiale, il impose une discipline de fer dans les rangs de la Squadra. Ensuite, il s'agit de se qualifier pour sa propre Coupe du Monde. En effet, à l'époque, le pays organisateur doit passer les éliminatoires, qui consistent en un match aller-retour. Avec une victoire 4-0 à l'aller contre la Grèce, le billet semble en bonne voie de validation. Mais, étrangement, la Grèce refuse le match retour, au prétexte de ne pas subir une lourde défaite. En réalité, il s'avère que la fédération grecque a été achetée par les Italiens qui lui ont offert une somme d'argent pour s'assurer de leur forfait et éviter ainsi tout risque d'élimination. Assurée de participer à sa Coupe du Monde, l'Italie construit des stades. Il ne reste plus qu'à en faire la publicité. Marianne Bonucci, historienne spécialiste de l'Italie, l'explique.
La Coupe du Monde de foot en 1934 est un événement en apparence apolitique, ce qui va permettre effectivement là de faire venir donc des journalistes, de montrer que l'Italie est capable d'organiser un événement international, et ce sera aussi la possibilité donc de faire de la politique sans le dire.
On annonce dans les journaux des réductions sur les billets de train pour les jeunes, les chemises noires et les militaires. Une affiche de la Coupe du Monde est imprimée en dizaines de milliers d'exemplaires et placardée dans tout le pays. Mussolini, l'ancien journaliste, qui n'était pas convaincu par cette Coupe du Monde, comprend petit à petit que cela peut être un bon moyen de promouvoir le régime fasciste à travers le monde. L'édition 1934 donne le coup d'envoi également à ce qu'on appelle le tourisme sportif, avec un tournoi organisé dans 8 villes qui regorgent d'attraits, Rome, Milan, Naples, Turin, Bologne, Florence, Gênes et Trieste, et des stades neufs parmi les plus modernes du monde. Les supporters pourront à la fois assister au match et visiter tous les nombreux monuments italiens. Le réseau de transport ferroviaire fonctionne bien. Les fascistes font en sorte que les trains arrivent à l'heure. Bref, voilà une maison bien tenue. Pendant que toutes les sélections nationales et les journalistes arrivent dans le pays, les joueurs italiens se retranchent dans un camp d'entraînement. Parce que pour eux, pas question de rigoler. Le président de la fédération ne leur laisse pas le choix, ils doivent absolument gagner cette Coupe du Monde.
Le but ultime de la manifestation sera de montrer à l'univers ce qu'est l'idéal fasciste du sport. Je ne sais pas encore comment, mais l'Italie doit gagner ce championnat. C'est un ordre.
27 mai 1934, Rome, stade du Parti National Fasciste. Pour son premier match, l'Italie affronte l'équipe des États-Unis, une équipe à leur portée, sportivement. Ce jour-là, sur la pelouse du stade, les joueurs italiens font le salut fasciste avec une mission claire, battre les États-Unis et si possible haut la main. Et de fait, les buts s'empilent. Angelo Schivao à la 18e minute, Raimondo Orsi, l'italo argentin, à la 20e, puis Schivao encore à la 29e minute. Pour la première fois dans l'histoire du foot, les matchs sont commentés à la radio et retransmis jusqu'aux États-Unis, où les Américains peuvent écouter et vivre la lourde défaite de leurs joueurs, qui tout de même sauve l'honneur en inscrivant un deuxième but en deuxième mi-temps. Mais le public italien peut exulter, la squadre écrase les États-Unis 7-1. Prochain rendez-vous, l'Espagne, qui vient d'éliminer le Brésil. Italie-Espagne, une confrontation mythique qu'on appellera la bataille de Florence.
Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Ehi, è partita per le spiagge, sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo. Il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio, con tanto sole tanti anni fa. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierar. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, la Coupe du Monde de football en 1934.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
31 mai 1934, Florence. Les Italiens poursuivent leur parcours en Coupe du Monde, mais cette fois sur la route des quarts de finale, ils croisent l'Espagne, qui peut prétendre aussi au titre après avoir éliminé le Brésil. Il faut noter d'ailleurs que l'Uruguay, tenant du titre, a décidé de boycotter cette deuxième édition de la Coupe du Monde en réponse au boycott italien de la première Coupe. Là, le football et la maternelle font parfois bon ménage. Les Anglais, eux, inventeurs de ce sport, refusent toujours de participer à cette compétition internationale. Mais enfin, qui sont donc ces nations qui organisent des tournois alors que le football, c'est nous, les Anglais? Et les Argentins, qui, comme les Brésiliens, n'ont pas envoyé leur meilleure équipe pour ne pas interrompre leur championnat national, ont été sortis par la Suède en huitième de finale. Donc, c'est sans eux et au stade Giovanni Berta de Florence que se déroule ce quart de finale Italie-Espagne. Sous la canicule, 35 000 Italiens sont venus soutenir la Squadra Azzurra. Leurs chants et leurs encouragements exaltent les joueurs de leur équipe, qui n'hésitent pas à basculer dans l'agressivité. Luis Monti, l'ex-argentin, un vrai boucher, ne blesse pas moins de 3 joueurs espagnols avec des fautes grossières non sanctionnées par l'arbitre belge Louis Barthes. Les Espagnols, avec une défense de fer et leur gardien talentueux Ricardo Zamora, tiennent le coup et marquent le but du 1-0 à la 30e minute. Sur l'égalisation italienne à la 44e, le gardien espagnol est gêné par un joueur italien qui fait une faute sur lui et l'empêche d'intervenir sur un coup franc qui conduit au but italien. Encore une fois, l'arbitre n'a rien vu ou n'a pas voulu voir. Il oublie aussi le pénalty qui aurait dû être accordé aux Espagnols sur une faute de l'inévitable Luis Monti. Prolongation et score final, 1-1. À l'époque, les tirs au but n'existent pas, il va falloir rejouer le match. Dans les colonnes du quotidien Paris Soir, on peut lire.
Mais qui traduira l'atmosphère passionnée de cette partie jouée sous un ciel d'orage, dans le cadre admirable du stade Berta, adossé aux délicieuses collines qui forment autour de Florence un amphithéâtre de verdure? Quel est l'ingénieur du son qui aurait eu l'idée d'enregistrer les cris, les clameurs, les sifflets, les applaudissements de cette multitude en chemise blanche ou bleue qui n'avait qu'une pensée, la victoire, la qualification de l'équipe Azur? Ah, ces fins de mi-temps avec ces bombardements continuels, des filets espagnols, des prolongations émaillées de chocs violents, de chutes, quelle électricité elle dégageait! Et combien de spectateurs durent rentrer chez eux à faune?
Alors on rejoue le match, c'est le cas de le dire. 1er juin 1934, Florence, le deuxième match, se joue dès le lendemain. Mais c'est l'hécatombe, des deux côtés, après cette longue partie du premier match, d'une rare violence, qui a gagné le surnom de Bataille de Florence. 7 joueurs espagnols sont blessés. L'un d'entre eux devra même mettre un terme à sa carrière. Côté italien, 5 sont KO. Ce seront des équipes bien différentes qui vont s'affronter le lendemain à Florence. Second round, donc. Oui, round, un terme de boxe, approprié pour parler de ce match. Encore une fois, très violent. Avec un arbitre suisse, cette fois, René Mercet, lui aussi très complaisant vis-à-vis des Italiens. Il accorde un but irrégulier à l'Italie et en refuse un tout à fait valable à l'Espagne pour un hors-jeu imaginaire. On peut lire dans les pages du quotidien sportif français Lotto, l'arbitre conduisit les opérations avec une telle désinvolture qu'il paraissait fréquemment être le 12e homme de l'Italie. D'ailleurs, quand il reviendra chez lui en Suisse, Mercet sera radié à vie de la Fédération de football. Après ce match retour et une courte victoire grâce à un but de Giuseppe Meazza, l'Italie se qualifie et poursuit son parcours. Prochaine étape, 2 jours plus tard, à Milan, avec un match au sommet contre l'équipe autrichienne de Matthias Sindelar, qualifiée de Wunderteam, l'équipe miraculeuse ou merveilleuse. L'Autriche, c'est aussi une ancienne ennemie de la Première Guerre mondiale, 20 ans plus tôt. Donc une équipe à abattre. Pour bien préparer la rencontre, quelque chose d'inimaginable encore aujourd'hui, Mussolini invite l'arbitre suédois Ivan Englund la veille du match. Sans commentaire. 3 juin 1934, 16h30, Milan, stade de San Siro. Face à l'équipe favorite du tournoi, cette Wunderteam autrichienne, l'Italie joue un match qui a des airs de finale. 35 000 tifosi sont réunis pour soutenir la Squadra Azzurra. Les dieux du ciel sont aussi aux côtés de l'équipe de Meazza, car il pleut des cordes. Et cela ralentit considérablement le jeu de passe des Autrichiens, qui fait habituellement leur force et la beauté de leur jeu. Enrique Gaeta, l'un des Italo-Argentins de l'équipe, inscrit le premier but à la 19e minute, validé par l'arbitre malgré une faute sur le gardien autrichien. Et puis les Italiens blessent Matthias Sindelar et se qualifient pour la finale à Rome contre la Tchécoslovaquie qui a éliminé l'Allemagne dans l'autre demi-finale. Les Italiens estiment que l'arbitre suédois Ivan Eklind a réalisé un bon match. Il est donc reconduit pour la finale prévue le 10 juin à Rome. Ben voyons. La veille du match, à la fin de l'entraînement, le Duce envoie un message sans équivoque aux joueurs de la Squadra, un télégramme qui dit « L'Italie doit frapper fort et faire tomber l'adversaire. Bonne chance pour demain, gagnez ou vous êtes mort. » Luis Monti, l'ex-Argentin menacé de mort avec la finale Uruguay-Argentine 4 ans plus tôt, connaît. Il devait perdre en 1930, ce qu'il a fait. Là, il sait qu'il doit gagner pour sauver sa peau. Rome, 10 juin 1934, stade du Parti National Fasciste, devant 50 000 spectateurs, parmi lesquels de nombreuses chemises noires. Voici la finale. Dans l'ouvrage 100 000 heures de football, le journaliste sportif Jacques de Rijswijk écrit à propos de cette finale. Dans sa loge drapée de pourpre, Mussolini est là. Autour du Duce, la passion de la foule est poussée à son paroxysme. Plus de 3 heures durant, elle va hurler sa ferveur patriotique et partisane en élan rythmé tumultueux. Italia, Italia, Duce, Italia. Ce ne sont plus des spectateurs d'une rencontre sportive. C'est une armée de militants exaltés orchestrant le règlement d'une affaire d'État, conclut le journaliste. Mais la réalité du terrain est tout autre et le match est très serré. 0-0 à la mi-temps. Il faut attendre la 74e minute pour voir un but et, stupeur, c'est Puk qui marque pour la Tchécoslovaquie. 1-0. La Coupe du Monde va-t-elle échapper aux Italiens? 5 minutes plus tard, à la manière du Real Madrid d'aujourd'hui, c'est l'égalisation. Le public retient son souffle, tout se jouera en prolongation. La suite, la voici en version originale et archive de l'époque, avec l'un des plus anciens commentaires radio de matchs de foot de l'époque. Au micro, Nicolas Caroso.
Nous sommes à la 5e minute des prolongations. L'Italie et la Tchécoslovaquie disputent la finale de cette Coupe du Monde. La situation est inchangée. Italie 1, Tchécoslovaquie 1. But de Puch à la 26e minute de la deuxième mi-temps et égalisation d'Orsi à la 36e minute. En ce moment, c'est le milieu gauche Nejedli qui porte la balle. Puch n'arrive pas à temps sur le ballon qui est intercepté par Manzelio. Il trace sa route. Il trace sa route, il dribble Lilevic en balle et la passe à Schiavio. Balle à Schiavio. Il rencontre Stirocchi. Schiavio le dépasse. Il entre dans la surface, il est seul, il tire.
Dans les tribunes, les chemises noires exultent. Des avions survolent le stade. Pour l'homme au coup de menton qui n'aimait pas le foot, c'est un triomphe. Mussolini va remettre la coupe Mussolini, évidemment, un trophée spécialement conçu pour l'occasion. Mégalo, comme il se doit dans une bonne dictature, c'est une coupe 6 fois plus grande et 6 fois plus lourde que la Coupe du Monde que Jules Rimet, président de la FIFA, remettra au futur vainqueur. Ce dernier, d'ailleurs, confiera plus tard, dans l'histoire merveilleuse de la Coupe du Monde, avoir eu l'impression que durant la compétition, le vrai président de la FIFA, c'était Mussolini. Pour le dictateur italien, en effet, la victoire est totale. L'équipe d'Italie fait les gros titres de la presse internationale et les correspondants reviennent très impressionnés de ce voyage en Italie, un pays décidément très organisé, avec des stades modernes. Frédéric Lemal explique en quoi cette Coupe du Monde, justement, est une double victoire.
Double victoire parce que l'équipe a gagné, l'équipe nationale a gagné. Et deuxième victoire, les journalistes étrangers ont fait des papiers absolument dithyrambiques sur l'Italie. Donc, très probablement, ça conforte Mussolini dans l'idée d'une certaine invincibilité et dans l'idée que le régime est désormais suffisamment solide pour passer à une nouvelle étape qui va être l'étape d'une politique étrangère beaucoup plus agressive, car il ne peut y avoir de fascisme sans la guerre. Le fascisme est né dans la guerre. La génération qui a pris le pouvoir, elle a été forgée par la guerre des tranchées. Et maintenant, il va falloir envoyer les Italiens se frotter à la guerre.
Effectivement, dans la foulée, Mussolini se lance dans les victoires militaires. Il entame la campagne d'Éthiopie, une guerre de colonisation violente pour agrandir l'empire colonial de l'Italie, un peu rikiki, c'est vrai, jusque-là, et rivaliser avec les démocraties françaises et britanniques, notamment. Alors à Rome, on lance la construction de Cinecittà pour permettre au régime de développer le cinéma italien et rayonner à l'international, au même titre que le Festival de la Mostra de Venise participe au rayonnement du régime fasciste. Ce qui pour le coup est plutôt réussi. Qui a oublié l'âge d'or du cinéma italien quelques décennies plus tard? Sport et cinéma, deux domaines investis également par le régime nazi. Adolf Hitler, comme Mussolini, estime que le sport est une propédeutique à la guerre. Et dès 1924, il écrit dans Mein Kampf: donner à la nation 6 millions de corps impeccablement entraînés, tous imprégnés d'un patriotisme fanatique et animés de l'esprit combattant le plus fervent. En moins de 2 ans, si nécessaire, l'État national les transformera en l'espace d'une année. Les JO de Berlin, les films de propagande de Leni Riefenstahl sont l'occasion pour le régime nazi de faire sa publicité. La Coupe du Monde de 1934 en Italie a montré aux Allemands comment le sport pouvait être utilisé par leur rayonnement international. Les JO sont un succès. Voici l'ouverture de la compétition par Adolf Hitler.
Ich verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet.
Lors du tournoi olympique, c'est l'Italie qui s'impose face à la sélection autrichienne. Seule différence, les équipes doivent être composées d'amateurs. Ce ne sont donc plus les mêmes acteurs que ceux de la finale de 1934, mais le résultat est le même. 4 ans plus tard, dimanche 19 juin 1938, stade olympique, Yves du Manoir à Colombes, en banlieue parisienne. À 17h, l'arbitre donne le coup d'envoi de la finale de la Coupe du Monde. Pour cette 3e édition, l'Italie, championne en titre, affronte la Hongrie. Score final 4 à 2 et 2e titre mondial consécutif pour la squadre. Avec cette nouvelle victoire, les fascistes montrent au monde entier qu'ils peuvent l'emporter contre les démocraties. La victoire n'est pas que sportive, elle est aussi politique. Comme quoi, les enjeux du football dépassent les enjeux du sport. Dans le documentaire intitulé « La Coupe du Duce », réalisé par Anna Francesca Leccia, l'écrivain italien Enrico Brizzi déclare: nous ne saurons jamais ce qui serait arrivé au football italien sans le fascisme, ni ce qui serait arrivé au fascisme sans le football italien. Les Italiens se sentent italiens et fiers de l'être, et tous frères. Mais seulement quand entre sur le terrain la squadra azzurra. Cette idée est née précisément en 1934. Et en ce sens, nous vivons toujours de l'héritage de ce mondial. Encore fallait-il y faire honneur, ce que l'Italie a fait ensuite en remportant 2 autres Coupes du Monde, l'une en 1982, l'autre en 2006.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, la Coupe du Monde de football en Italie. On en parle avec 2 invités. Geoffroy Garretier, bonjour.
Bonjour Fabrice.
Vous êtes journaliste à Canal+, spécialiste de l'histoire du football. On vous voit dans plusieurs émissions foot de Canal, notamment Jour de foot avec l'ami Eric Bénard.
Absolument.
Et vous, Tony Chaperon, bonjour.
Bonjour Fabrice.
Ex-arbitre français international. Alors vous, j'ai entre les mains votre mémoire de DEA, passé à l'université de Caen, et s'appelle « Sport et fascisme, l'Italie mussolinienne, instigatrice d'une utilisation politique et totalitaire du sport ». Je ne savais pas que le corps arbitral était colonisé par les intellos. En tout cas,
ça ne nous rajeunit pas, en tout cas.
Vous êtes complètement dans le sujet. Geoffroy Garretier, on a parlé de cette Coupe du Monde en 1934, gagnée, on peut le dire, scandaleusement par l'Italie, mais quelle était la valeur intrinsèque sportive réelle de cette équipe d'Italie, même si elle n'avait pas eu tous ses avantages? Est-ce qu'on peut penser qu'elle aurait pu gagner quand même la Coupe du Monde?
Elle aurait pu gagner, évidemment. C'était une des meilleures équipes du monde. Elle avait déjà pour avantage, outre tous les moyens de l'État dont vous avez parlé dans votre récit, un championnat professionnel. Qui n'était pas le cas partout, loin s'en faut, en tout cas pas en Allemagne par exemple. Elle avait d'excellents joueurs qui ont laissé une trace dans l'histoire du foot italien et même dans l'histoire du football mondial, comme Giuseppe Meazza, hein, qui a donné son nom au célèbre stade de Milan où se partagent l'Inter et l'AC Milan, Silvio Piola, etc. Donc elle aurait pu, oui. Mais elle n'aurait pas dû.
On a compris.
Elle n'aurait pas dû, pour diverses raisons. Alors, moi, je pense que la principale, outre le fait que sur les fameux Oriundi que vous avez cités, les joueurs sud-américains rapatriés, qui est une tradition qui a duré très longtemps, hein, puisque en 2006, avec Camoranesi, les Italiens ont fait la même chose, il y a un doute sur la régularité de certaines incorporations, pour des raisons notamment de temps passé sur le sol italien. Je pense notamment à Guaita. Puis il y a surtout, évidemment, ce scandale absolu, absolu, qui est le quart de finale contre l'Espagne. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce qui se joue aussi dans ce match-là, c'est la haine féroce entre le fascisme italien et la révolution espagnole. Puisqu'on est avant la guerre civile, et on va dire, une autre forme de socialisme est au pouvoir en Espagne. Et donc, clairement, selon les règles aujourd'hui, même si c'est compliqué de revisiter les événements, l'Italie n'aurait jamais dû se qualifier. Voilà. Donc, ça laisse évidemment, pour tout un tas de raisons, notamment celle-ci, un goût très très amer. Et paradoxalement, l'Italie était bien plus méritante et bien plus forte en 1938.
Alors on en reparlera de 38, parce qu'on est passé assez vite. Tony Chaperon, si il y a eu une malfaçon quand même pendant cette Coupe du Monde 1934, évidemment, les arbitres sont bien co-responsables de tout ça.
Ils sont co-responsables parce qu'on les a mis dans les conditions d'orienter les matchs.
Oui,
c'est-à-dire qu'on a fait pression. Vous avez bien compris que le régime politique fasciste met tout en œuvre, et y compris alors l'achat de matchs, on a vu avec la Grèce, mais aussi, vraisemblablement, soit le conditionnement des arbitres, ou peut-être l'achat des arbitres. Mais certains vont le payer cher. Vous avez parlé du Suisse qui rentre chez lui, qui va être radié à vie.
Oui.
Preuve que malversation y a dû y avoir, il y avait honte chez les Suisses. Donc oui, tout a été mis en œuvre, et les arbitres ont contribué à la victoire de l'Italie.
Pour l'anecdote, pardon, l'arbitre suisse dont on a parlé, René Mercer, est aussi l'arbitre de ce fameux match de barrage entre l'Italie et la Grèce, qui n'aura pas de suite, puisque la fédération grecque aurait été corrompue, voire achetée. Donc on est vraiment là dans une trame frauduleuse absolument complète.
Tony Chaperon, est-ce qu'il vous est arrivé, dans votre carrière, parce que vous avez été arbitre au plus haut niveau, de vous retrouver dans ce genre de situation, alors pas aussi évidente, mais arbitrer un match dans lequel joue une équipe dont l'environnement politique est lourd. Vous avez connu ça ?
Alors c'est marrant parce que j'ai vécu ça, mais alors évidemment pas une pression comme ça. Je l'ai vécu en Italie avec Silvio Berlusconi. Et j'arbitre un match de Champions League à Milan.
Donc le Milan AC.
Le Milan AC. Et il s'arrange. Alors, je ne sais pas si notre rencontre est fortuite, mais je n'y crois pas. Il s'arrange pour être à la sortie de mon vestiaire au moment où on va rentrer sur la pelouse. Juste pour dire, voilà, je suis Berlusconi, je suis le président du Conseil italien, je vous salue. C'est une pression particulière.
Bien sûr.
Ça ne veut pas dire qu'il vous influence sur la partie du match, mais il veut dire, je suis là. Et ce n'est pas n'importe qui.
Alors, en 34, comme aujourd'hui, il y a aussi la pression du public. Je reviendrai sur l'intimité d'un arbitre quand il est sur le terrain, avec une pression énorme. La pression du public. Vous arbitrez un match, l'une des deux équipes joue forcément chez elle. Pas forcément, mais elle joue chez elle. Comment vous gérez ça, le public ? Est-ce qu'il vous fait peur, le public ?
Non, ça fait alors c'est un élément de motivation aussi pour les arbitres. Mais ce qui est singulier dans les Coupes du Monde, où les matchs entre nations, c'est très différent des matchs entre les clubs. Parce que là, vous arbitrez un pays dans son entièreté. Et donc, c'est particulier. Vous avez les hymnes avant les matchs. Donc, ça vous conditionne aussi. Tout d'un coup, c'est plus un match de football. C'est deux nations. Et on dit que le football, bien souvent, ça remplace la guerre. Et quelque part, quand il y a les deux hymnes, les deux pays qui s'affrontent, vous avez parlé de l'Espagne et de l'Italie. C'est deux visions de la politique qui s'affrontent à ce moment-là. Et donc, on ne peut pas faire abstraction de tout ça. Donc, c'est une ambiance très particulière lorsqu'on arbitre deux nations.
Geoffroy Garretier, la grille de lecture la plus pertinente, à mon avis, pour analyser cette Coupe du Monde 34, c'est précisément les années 30, cette décennie où les idées fascistes ont le vent en poupe. Elles sont modernes, elles paraissent novatrices, y compris hors d'Italie, bien sûr, toute l'Europe. Et l'Italie de Mussolini l'incarne, justement. Les années 30, c'est par hasard.
Oui, parce que la question, avant de se demander si la victoire italienne était régulière en 34, si on aurait dû organiser la Coupe du Monde là-bas, c'est pourquoi leur a-t-on donné ? Il faut se rappeler qu'à l'époque, le football n'est pas aussi mondialisé, que la FIFA ne compte pas 211 membres, mais seulement 29, que les décisions se font de manière beaucoup plus courte et en même temps avec un intense lobbying. Et donc, en 32, quand la décision d'attribuer la Coupe du Monde à l'Italie se fait, il y a le choix entre l'Italie et la Suède. Et les Italiens, donc le régime fasciste, fait un tel lobbying, met une telle pression positive et négative, en disant à la FIFA qu'il n'y aurait pas de perte financière, qu'éventuellement on aiderait le budget de la FIFA à travers les recettes de la Coupe du Monde. Que Jules Rimet, le français Jules Rimet, qui est à l'époque le président de la FIFA et son aréopage, se disent « bah oui, c'est la meilleure solution, bien sûr ». Et puis en plus Rimet, par nature, qui est un démocrate chrétien, républicain, mais en même temps très consensuel, refuse de mélanger le sport et la politique. Donc pour lui, c'est le plus cohérent, le projet italien, donc on y va. Et du coup, derrière, tout le monde va emboîter le pas. À commencer par Adolf Hitler, qui au départ,
deux ans plus tard, les JO.
Qui au départ est le grand rival, enfin le rival, qui est, on va dire, pas vraiment l'allié de Mussolini. D'ailleurs, Mussolini le méprise profondément. Mussolini, dans toute sa splendeur, trouve que Hitler est un plouc, un paysan à peine encore crotté. Et Hitler, qui est fasciné par Mussolini, va s'inspirer de la Coupe du Monde, de la munificence de la Coupe du Monde, pour ses Jeux de Berlin en 1936. Là, on est dans une sorte de séquence terrible, puisqu'en fait, 34 Coupes du Monde en Italie, 36 Jeux Olympiques en Allemagne d'été à Berlin en hiver à Garmisch-Partenkirchen, Coupe du Monde 38 en France, qui est certes une démocratie, mais qui va devoir subir l'Anschluss, et ce fameux match fantôme au premier tour entre l'Autriche et la Suède, puisque l'Autriche a été annexée et donc ne participe pas à la Coupe du Monde, et l'Allemagne, qui aurait dû être exclue selon nos critères à nous, est autorisée à concourir, et puis surtout, et car pour le bouquet final, c'est les Jeux de 40 qui sont attribués à Tokyo. Tokyo,
oui,
hein.
Bah oui.
Tokyo et les Jeux d'hiver à Sapporo. Donc en fait, on a
les puissances de l'axe,
trilogie,
quoi.
Les puissances de l'axe. On fait main basse sur le sport pour des raisons évidentes de prestige, de solidification de leur statut, de mise à l'épreuve des démocraties, et puis avec un agenda caché, vous l'avez dit tout à l'heure par rapport à l'Italie, qui est évidemment la guerre. Et ça nous fait dire d'ailleurs que ces années 30 résonnent de manière assez étrange aujourd'hui.
Oui, les périls ne sont pas les mêmes, mais il y a des résonances.
Les années 10, les années 20, l'attribution de la Coupe du Monde à la Russie en 2018, avant, 4 ans après Sochi. Je vous rappelle quand même que les Jeux d'hiver ont lieu à Sochi et que 6 semaines après la fin des Jeux de Sochi, la guerre dans le Donbass commence. Selon un agenda qui était évidemment prévu à l'avance.
On peut ajouter les JO à la Chine en 2008, la Coupe du Monde 78. Pour la dictature argentine.
Et pour le centenaire de la Coupe du Monde en Italie, la Coupe du Monde a été attribuée à ce grand pays droit de l'hommiste qui est l'Arabie Saoudite.
Qatar.
Ah non, 2034.
2034. Ah oui, pardon.
2034.
Et voilà, donc il y a eu Qatar en 22.
Qatar en 2022 et l'Arabie Saoudite en 34. Donc,
les instances ne sont pas regardantes.
Elles sont, on va dire, perméables.
Complaisantes, on dira.
Complaisantes et perméables aux débouchés, notamment économiques, que le sport permet.
Et quel regard vous avez porté, vous, Tony Chaperon, en tant qu'arbitre, vous ne l'étiez pas encore, mais sur la Coupe du Monde 1978, en Argentine, gouvernée par la junte, c'était pareil, il fallait absolument gagner. Il y a eu des malversations énormes aussi, hein.
Oui, alors, j'étais né, mais j'étais trop petit pour comprendre ça. Non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le sport sert de propagande à toutes ces nations qui deviennent totalitaires. Donc, que ce soit l'Argentine en 78, l'Allemagne dont on a parlé, ou l'Italie. Mais l'Italie a une singularité, c'est que c'est la première à mettre en place le sport comme outil de propagande, que ce soit en interne ou d'un point de vue international. Donc, ce faisant, en fait, Mussolini met en place tout un système qui permet ça. Et en 1932, on n'en a pas parlé, mais l'Italie est la deuxième nation mondiale aux Jeux Olympiques. C'est celle qui a le plus de médias derrière les États-Unis. Donc, c'est un système mis en place. En fait, on encadre les jeunes dès leur plus jeune âge. Et ils sont dans des organisations fascistes. Et on les encadre pour en faire des champions. Mmh. En gros, Mussolini dit ce sont les soldats du fascisme.
Bien sûr. Bien sûr,
pour compléter ça, il y a quand même une dimension qui est forte dans le football, qui est que même un Mussolini a dû composer avec. Au départ, Mussolini, vous l'avez rappelé, préfère l'escrime, les sports dits olympiques, déteste le foot, parce qu'il déteste l'esprit de clocher qui s'y rattache. Mais comme il comprend que c'est un élément important d'unification, finalement, du pays, donc en fait, il va composer avec et s'en servir.
France Inter. Affaires sensibles.
Geoffroy Garrettier, l'Italie est championne du monde en 1934, elle réitère 4 ans plus tard, en 1938. Les choses sont-elles très différentes ?
Très différentes, oui, puisque la Coupe du Monde se déroule en France. Alors là, pour le coup, autant le sport avait été utilisé par le régime fasciste pour sa promotion, autant en France, les politiques passent complètement à côté de l'événement. Donc finalement, il faut s'en réjouir, ça reste un événement sportif. Et l'Italie démontre là pour le coup vraiment sur le terrain, dans un climat plutôt apaisé, sa supériorité. Alors évidemment, il y a l'Allemagne qui joue mais qui se fait sortir au premier tour par la Suisse. Ça permet de mettre en valeur toujours ces joueurs comme Meazza et puis le sélectionneur Vittorio Pozzo qui est en fait un grand tacticien du football, qui a mis en place une stratégie héritée, dérivée du fameux WM et qui permet aux Italiens de l'emporter en finale contre la Hongrie en ayant éliminé en demi-finale le favori, le Brésil, même si Leonidas ne jouait pas ce match-là. Et puis pour l'anecdote, il y a quand même quelque chose qui doit rester. Alors, Il y a des qualifications, il y a notamment la Palestine mandataire qui joue ses qualifications. En fait, c'est l'amorce de l'État d'Israël. Hein, dans cette Palestine, il n'y a que des joueurs juifs qui jouent. On joue l'hymne, le futur hymne israélien avant les matchs. Et puis, il y a un personnage qui est étonnant, qui s'appelle Ottorino Barassi, qui en fait est un des dirigeants du foot italien, qui a un peu dans l'ombre organisé la Coupe du Monde 34, et qui va jouer un rôle important, même symbolique, pendant la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il va sauver le fameux trophée Jules Rimet. Vous savez, cette fameuse coupe avec les ailes, le premier trophée, qui va être convoité par les nazis pour récupérer l'or et le faire fondre. Il va le garder quelques jours dans une boîte à chaussures sous son lit, et puis comme ça, ça devient menaçant, il va l'emmener chez ses parents dans un village des Pouilles, et le garder pendant 2 ans dans un fût d'huile d'olive. Voilà. C'est pour dire quand même que dans cette lourdeur, dans cette gravité de l'époque et du foot, il y a quand même que de jolies histoires.
J'ai une très mauvaise nouvelle, il ne nous reste que 3 minutes. Alors, je vous posais la question directement, Tony Chaperon, parce qu'elle me tient à cœur. Qu'est-ce que vous a apporté la VAR, la vérification?
Oh mon Dieu, on est tellement loin de l'Italie.
Et surtout, non, mais on parle de foot.
Il la déteste.
Ah, mais je tiens quand même à l'actualité. Et surtout, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau des dirigeants du foot pour, avec la VAR, nous siffler des hors-jeux à un pouce, à un ongle, et ça va contre le sens du jeu, ça va contre le spectacle. Mais non. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Ils aiment le foot ou pas, ces gens-là?
Ça va dans le sens de la VAR. Les gens ont voulu la VAR, donc on utilise la technologie jusqu'à ce que ce soit ridicule. Mais j'attends avec impatience le 6 juin, parce que les Anglais vont peut-être nous prouver qu'ils ont eu raison d'inventer le sport, parce que le 6 juin, les Anglais vont voter pour ou contre la VAR. Et j'attends ce référendum avec grande impatience, parce que la Première Ligue, les clubs, certains clubs, ont dit on veut arrêter
la VAR.
Donc on attend avec impatience le résultat du vote. On sait que les Anglais ont déjà mis en place le Brexit, le Varxit peut-être, on n'est pas à l'abri.
Bah dis donc, c'est intéressant, on attend avec impatience, et on attend avec impatience aussi le début de l'euro. Hein. L'Allemagne ouvrira, je crois, devant l'Écosse, c'est ça, parce que l'Allemagne est pays organisateur. Une fois de plus, j'ai fait le calcul, nombre de fois que l'Allemagne a organisé des euros et des Coupes du Monde, ils ont été bien servis quand même. Alors, Geoffroy Garretier, votre favori pour cet euro-là, très objectivement, on peut dire la France par réflexe parce qu'elle est quand même sur le toit du monde, mais est-ce qu'elle présente des garanties aujourd'hui là?
Écoutez, je ne vais pas rester uniquement sur la France, je vais en dégager 4.
Oui, bien sûr.
Okay. L'Allemagne, normalement, devrait réussir. On sent qu'il se passe quelque chose, il y a un frémissement dans cette équipe. L'Allemagne est tombée trop bas ces derniers temps pour, à domicile, ne pas faire quelque chose de bien, même si gagner à domicile... C'est très compliqué, on rappelle
qu'à l'Euro... Il reste une minute pour les 3 autres.
On rappelle qu'à l'Euro, les derniers à avoir gagné à la maison, ce sont les Français en 84. Il n'y avait que 8 équipes à l'époque. Je vais faire court pour faire plaisir à mon ami Tony. La France, évidemment, qui a priori a la meilleure équipe, l'équipe la plus complète, les meilleurs joueurs à chaque poste.
Sur le papier, oui.
Le papier, avec l'hypothèque Kylian Mbappé sur son niveau de forme. L'Italie, ce n'est pas pour vous faire plaisir, mais l'Italie est comme championne d'Europe en titre, et je pense qu'elle a une équipe, là encore une fois, très valable avec des entraîneurs de grande qualité, et puis le Portugal, qui reste toujours une équipe de grande valeur, très complète et rajeunie.
Vous n'avez pas cité l'Angleterre, Tony.
Moi, en 10 secondes, je suis beaucoup plus court que je crois, l'Angleterre et le Portugal.
L'Angleterre-Portugal.
Ouais, je tente le coup.
L'Angleterre, l'éternel favori depuis 60 ans, qui ne gagne jamais.
Et c'est pas parce que l'Angleterre ne gagne jamais qu'elle va pas gagner aujourd'hui.
Absolument, hein, absolument. Bien sûr.
Merci Fabrice.
Messieurs, je sens quelqu'un qui aime l'équipe de foot anglaise, un autre qui a peut-être d'autres
préférences. Non, mais je suis lucide, c'est tout.
Ouais, très bien. Vous êtes journaliste.
Voilà, je n'osais pas le dire. Merci Fabrice de le rappeler.
Messieurs, merci infiniment. Merci. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la Coupe du Monde 1934, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Arnaud Caillet.